Vous écoutez Logosphère, l'émission de reportages et d'entretiens, de rencontres et de réflexions. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Logosphère sur les ondes d'univers.
Guillaume Faburel, bonjour.
Bonjour.
Guillaume Faburel, vous êtes géographe, professeur des universités à Lyon 2, chercheur à l'UMR Triangle ou CNRS, c'est bien ça ?
C'est bien ça.
Vous avez écrit « Les métropoles barbares », qui a eu le prix Livre d'écologie politique pour en finir avec les grandes villes, ou encore « Indécence urbaine », qui est le dernier livre que vous avez publié.
En 2023, oui.
En 2023. En tant que géographe, vous vous intéressez à l'aménagement du territoire et de son peuplement aussi, au regard des réalités écologiques et des crises écologiques. Vous avez une réflexion critique sur l'urbanité, sur la métropolisation du monde et la taille des villes. Enfin, en quoi la métropolisation, justement, est à l'origine même du dérèglement climatique, de l'effondrement de la biodiversité et de l'aménagement des ressources en matière première.
Ouais. En fait, il y a plein de raisons à cela, mais pour moi, la principale, c'est qu'elle nous a détachés du vivant. La métropolisation est une artificialisation, l'urbanisation, à un moment donné, est une aseptisation, et nos vies sont embarquées dans des réalités qui ont été déconnectées, voilà, de l'environnement. On ne sait plus véritablement d'où vient ce que l'on mange, d'où vient l'énergie, quelles sont les terres qui ont été excavées pour cela, les matériaux qu'on utilise, etc., etc. Donc, la crise écologique étant une crise de sensibilité, une crise de l'attention au vivant, c'est depuis les foyers urbains, alors massifiés, il y a des effets de taille, c'est pour ça que la métropolisation est problématique, c'est qu'elle nous a fait franchir des limites, et la première des limites, c'est de nous rendre totalement insouciants, inconséquents vis-à-vis du vivant. Voilà, moi, pour moi, autour de la métropolisation, on pourrait en discuter des heures, hein. Il y a plein d'effets, on peut les mesurer, c'est documenté, il y a plein de données sur la question, mais le premier, c'est qu'on est dans des modes de vie qui sont des modes de vie de l'élixir de jouvence, de l'état d'ébriété, mais pas alcoolisé, hein, l'état d'ébriété énergétique, et qui, comment dire, dans les environnements proposés, n'envoient pas les signaux d'alerte que les écosystèmes envoient par ailleurs. Donc la dissociation entre les lieux que l'on habite et les effets écologiques de ces modes de vie n'est pas de bon conseil pour nos propres habitudes, nos propres pratiques, et pour abaisser les empreintes écologiques.
Donc vous critiquez cette prédominance aussi des politiques de métropolisation.
Oui, les métropoles ont un statut, elles ont été créées, elles ont entériné un processus économique, hein, c'est la conversion néolibérale de notre économie mondialisée, c'est ça les métropoles. Avec un statut tardif, mais pour leur donner les moyens politiques, on est dans une logique croissanciste et développementaliste qui n'a pas du tout intégré, par contre, la matrice écologique. Voilà, les paramètres écologiques de tous les effets en cascade, de la densité humaine et urbaine, de la massification des pouvoirs, de la concentration des richesses. Voilà. En fait, l'impensé, c'est celui de la taille. Voilà. Ça a du mal à arriver parce que tout simplement, on est tous enjoués d'évoluer dans le même sens et de défendre l'idée que la densité est bonne pour l'environnement et pour l'écologie, ce qui est alors là pour le coup une hérésie totale. Hein, voilà. Et nos pensées sont totalement anachroniques. Nos politiques d'aménagement d'aujourd'hui ont été pensées dans les années 60-70, très croissancistes et développementalistes, et elles n'ont pas bifurqué ou changé de paradigme, alors même que les ressources ont commencé à se raréfier et que les limites planétaires sont allègrement enjambées. Quoi.
Oui, vous expliquez que cette idée de concentration et de densification, ouais, qu'on pourrait croire justement écologique, est bonne pour l'environnement, ne l'est pas.
Oui, elle ne l'est pas parce qu'il y a des effets de seuil et des effets rebonds. Et c'est là où l'effet de taille joue un rôle assez déterminant. C'est-à-dire que par distinction, par proximité, par distinction sociale ou proximité des corps humains, à un moment donné, la question qui se pose, c'est de savoir jusqu'où nos comportements sont induits et nos manières de consommer elles-mêmes travailler. Voilà. Et c'est pour ça que le capital apprécie particulièrement, on ne peut pas dire, fait de la densité urbaine son lieu de rendement et de surprofit, tout simplement parce qu'on est tous soumis à ces stimulations et à cette surstimulation de la consommation. Je reviens à cette idée première qui n'est jamais mise en débat et qui est en fait le point ultime que l'on devrait rapidement aborder maintenant à des fins écologiques, sociales, anthropologiques, politiques, c'est la question de la taille. La métropole n'est pas bonne conseillère parce qu'il y a des effets d'emballement, de rebond, il y a des effets démultiplicateurs. Passer une certaine taille, on est plutôt indolemment enjoint à se comporter de manière soit distinctive, soit ressemblante aux autres. Et là, Ça enjoint des comportements d'ébriété dans la consommation et donc du productivisme, etc. etc. C'est là où c'est pas un petit sujet. Hein. L'humanité s'est construite dans sa volonté de se croire non pas au-dessus, mais un peu supérieur à toutes les entités du vivant. C'est la ville qui a servi, dans l'épopée des villes, qui a servi de maillage signifiant, d'ordre symbolique, de construction de cette dite supériorité. Mais ça s'est fait au détriment, par l'effet de masse et de densité, au détriment tout simplement des ressources de vie et des écosystèmes, qu'ils soient locaux ou planétaires.
Est-ce que de votre point de vue, vous imaginez la possibilité de verdir les villes et les métropoles ?
Les verdir, oui, mais est-ce que c'est à la hauteur ? On parlait des effets tout à l'heure. S'il y a des effets de taille, c'est par exemple l'énergie. L'énergie, à un moment donné, il faut la consommer. On peut dire que d'avoir des immeubles permettrait de mieux répartir les population plutôt que s'étaler et tout artificialiser. Le problème, c'est qu'il faut beaucoup d'énergie pour tous nous réunir au même endroit. Donc, les recettes qui sont proposées sont au mieux insignifiantes, au pire totalement aggravantes. Voilà, insignifiantes parce que la végétalisation, la renaturation ne va pas rafraîchir plus que ça des espaces qui vont connaître des canicules mortelles, et ça a déjà commencé et ça va s'accélérer. Donc je peux prendre juste cet exemple de la renaturation, la revégétalisation, c'est pas à la hauteur. Mais l'agriculture urbaine, par exemple, ne nourrira pas des centaines de milliers de personnes. En fait, la taille limite, c'est autour de 20 à 30 000. Passer 20 à 30 000, il faut s'en remettre à des hectares fantômes, à des territoires servants, à des arrière-pays, à des esclaves énergétiques. C'est un peu ça le problème. Donc je ne crois pas. Et alors, donc c'est insignifiant, mais c'est au pire aggravant. Parce que ça nous laisse croire que la solution viendrait de la masse et des grandes densités, que les villes pourraient avoir la solution aux problèmes qu'elles ont posés, alors qu'il va falloir clairement les fragmenter, pour ne pas dire les démanteler. Et c'est là où on a perdu connaissance de choses qui ont peuplé l'histoire des villes, c'est que les villes meurent aussi. Voilà, l'histoire est peuplée de nécropoles. Ça peut être mortifère ce que je suis en train de raconter, c'est pas très joyeux, mais il va falloir à un moment donné imaginer abandonner ces espaces-là ou les convertir, mais un peu plus radicalement que les politiques d'adaptation et de transition qui sont prônées par les pouvoirs métropolitains.
Alors de cette réflexion critique, vous êtes intéressé aussi à des mouvements, on pourrait le dire, post-urbains. Ouais. Vous êtes allé à la rencontre de communs, on peut le dire comme ça, de personnes qui partent vivre à la campagne, en milieu rural. Vous voyez une désaffection vis-à-vis des villes ?
Alors, il y a une désaffection, mais qui est contrariée, parce que ce sont des gens qui majoritairement viennent aussi des villes. Donc, faut faire attention à l'acte, on va dire, de diffusion dans l'espace, de mode de vie que l'on n'a pas suffisamment déconstruit. Voilà, il y a un risque de colonialité, soyons clairs. Mais néanmoins, les gens, alors ça dépend des alternatives et des collectifs, il y en a qui sont plus vigilants que d'autres, plus alertes que d'autres, qui ont construit et mûri leurs projets avec peut-être un peu plus de temps. Voilà. Moi, ce que je vois, c'est que c'est très diversement constitué. Voilà, il y a des communautés intentionnelles, des enclaves décentralisées, les zones à défendre font partie de ces choses-là, mais aussi des écolieux, mais aussi des fermes sociales, mais aussi des coopératives intégrales. Voilà. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 3 à 5 milieux qui, en France, peuplent l'Hexagone, un peu à bas bruit, de manière très discrète, et qui proposent des alternatives radicales. Sauf que ça vient de filiations et de trajectoires qui sont très différentes les unes des autres. Nous, en les observant, pas les 5 000, on n'a pas les moyens, parce que voilà, la recherche publique n'a plus les moyens qu'elle avait il y a 30 ou 40 ans. Ça, c'est une petite parenthèse et une dédicace. En observant néanmoins un peu loin ou en empruntant à d'autres, donc en essayant de collationner l'ensemble des données, on s'aperçoit qu'il y a 3 communs qui ressortent et qui traduisent bien un chemin qui est engagé. 1, il y a habiter la terre autrement, par l'écologie notamment. Voilà. Et là, la question, il faut être clair, de la subsistance. Voilà, est posée, c'est-à-dire comment on rapproche la consommation de la production. Voilà, et on produit très directement ce dont on a besoin, donc on revisite ses besoins. Il y a un deuxième commun, qui est celui de coopérer par d'autres savoir-faire. Que la coopération par des savoirs de la spécialisation, il ne s'agit pas de ça, de renouer avec quelques outils de la main en particulier. Voilà, l'éloge de la main est particulièrement posé. Et il y a un troisième commun sur autogérer, mais de manière solidaire. Voilà. Et là, c'est de reprendre en capacité politique des organisations, pas massifiées, hein. C'est pas des métropoles qui se déplacent, hein. Voilà, c'est des collectifs de quelques individus, à tout au plus deux ou trois dizaines, voilà. Mais qui, fixent leurs propres règles de conduite, et donc, sous cet angle-là, par exemple, sont amenés à poser la question des oppressions, des dominations, des rapports de genre dans ces collectifs-là, moi qui me semble peut-être plus efficace, en tout cas disséminer comme ça les 3 à 5 000, que les mondes militants massifiés dans les mondes urbains ou dans les villes, qui qui ont de belles valeurs hein, et qui défendent de belles idées, mais dont la mise en application à cette taille-là et à cette échelle-là n'est pas du tout assurée. Voilà, là, il y a une mise en pratique par l'exemple qui me semble assez éloquente. Donc, habiter, coopérer, autogérer, tout ça par l'écologie, par d'autres savoir-faire et d'autres cultures de métiers, et surtout un rapport aux politiques qui s'en laisse plus compter et qui décide de gérer très directement et de s'autogérer politiquement, c'est indéniablement des communs qui sont alors pas tous d'équerre, mais qu'on retrouve un peu disproportionnés dans l'ensemble des alternatives qu'on a pu observer ou que d'autres ont observées.
Donc il y a cette désaffection, vous parlez d'un déménagement.
Oui, alors en fait, le terme, il n'y a pas d'exode, comme ça a été annoncé lors de la pandémie du confinement, d'exode urbain par écho, parce que déjà le terme d'exode, historiquement, il est chargé. Hein, c'est pandémie, c'est guerre civile, donc on n'en est pas là. Et puis le flux, c'est des petits flux, mais avec des grands effets, parce que les gens, là où ils vont s'installer, généralement, il y a moins de monde, donc ça peut avoir des effets. Nous, on parle de débranchement. Voilà. Il y a une volonté, non pas de sortir du système, mais de légèrement débrancher de l'ensemble des dépendances que les espaces urbains métropolisés ont créés en nous. Voilà. De là, parler de sécession, de désertion, c'est totalement exagéré, parce qu'en fait, c'est là la difficulté, c'est que nos vies sont hybrides, en fait. Voilà. Elles sont passées, même les ruraux convaincus ont été embarqués dans une réalité où la ville, à un moment donné, a été facteur d'émancipation, et donc on y est passé 2, 3, 4, 5 ans pour faire des études, pour se former, on y a peut-être occupé son premier emploi pour mieux revenir après. Donc cette hybridité-là ne permet pas de dire qu'il y a un débranchement radical ou un exode définitif. Il y a juste à dire qu'aujourd'hui, les campagnes suscitent énormément d'appétence. Voilà. Les ruralités suscitent énormément d'envie. On a plus de 78% de la population française qui ne veut plus vivre dans les grandes villes. Voilà. Alors du désir à l'action, soyons clairs, hein, il y a toujours un gap, il y a toujours un fossé.
Qui est économique.
Qui est économique, qui est l'emploi, qui est la ressource de vie, qui est voilà, un minimum de dignité pour pouvoir... voilà. Et ce qui est annoncé par le gouvernement est assez problématique vis-à-vis de ça. Bon, la conditionnalité du RSA, etc. etc. Je referme la parenthèse. On est attaché par l'économique à des espaces urbains métropolisés, mais les emplois ont de moins en moins de sens. La tertiarisation et la dématérialisation suscite de plus en plus d'envie de bifurquer, de faire différemment, de cesser. Et ce mouvement-là, en fait, vient se lever dans quelque chose que l'on pourrait considérer comme un débranchement à bas bruit. Et du coup, le déménagement, c'est quoi ? C'est une vieille idée de collègues géographes des années 60-70 qui, en fait, ont indiqué qu'on avait déménagé le territoire, c'est-à-dire que l'aménagement était une lutte contre toutes les cultures locales, donc s'imposer de manière homogène. Et nous, on a retourné le terme pour dire, effectivement, aujourd'hui, il faudrait vraiment déménager. Il faut cesser d'aménager, il faut ménager tout ça. Et il faut déménager, c'est-à-dire déconcentrer les grandes polarités métropolitaines et repeupler, alors de manière écologique et vertueuse, par les alternatives dont on a parlé, l'ensemble de l'espace hexagonal, y compris dans la diagonale du vide, parce que vous avez des logements vacants, parce que vous avez des terres qui n'ont pas totalement été converties à la chimie de synthèse et au labour qui est en train de tout désinguer, parce que vous avez des ressources forestières qu'il nous faut absolument utiliser différemment plutôt que la coupe à blanc ou que le Douglas à perte de vue. Je ne dis pas que les campagnes sont de toute vertu, je dis juste que les ressources de subsistance y sont et que le déménagement est censé annoncer un rééquilibrage qui serait pour le vivant un peu plus vertueux.
De votre point de vue de géographe, justement, quel serait dans cet aménagement, alors pour le coup des campagnes, ouais, les lignes à suivre?
Alors, les lignes à suivre dans le ménagement plutôt que l'aménagement.
Le ménagement.
Voilà, c'est du jeu de mots de balle, mais bon. Dans le ménagement en question, qui est en train d'arriver quand même, l'idée de la relocalisation joue un rôle assez déterminant, c'est-à-dire non pas souverainement hisser des barbelés ou des frontières pour pouvoir protéger ses propres ressources, mais à un moment donné, il va falloir se poser la question de nos ressources et de la manière dont on pourrait, par exemple, faire biorégion à un moment donné autour de cette chose-là. Donc, la relocalisation, la démassification joue un rôle déterminant.
Les biorégions, ouais. Juste un mot.
Biorégions, ce sont en fait des territoires qui sont gouvernés par la nature et pas par les institutions humaines, c'est-à-dire des espaces qui, écologiques, produisent des cultures d'appartenance qui, d'un fond de vallée, qui d'une moyenne montagne, qui d'une île, qui d'un fragment de plateau, créent de l'appartenance, de l'ancrage, du sentiment commun de pouvoir faire écologie un peu différemment dans le respect des ressources. Alors du coup, on ne mange pas toujours la même chose, on ne fait pas venir de très très loin des bananes et des kiwis, etc. etc. Donc les régimes alimentaires sont amenés à évoluer, les régimes industriels ne sont pas ceux massifiés de l'usine du coin, mais du petit artisanat qu'il nous faut absolument, avec lequel il faut renouer des liens, il y a des outils, etc. etc. Moi, mon avis, autour des biorégions ou les lignes de force dont vous parliez, celui de la décroissance est indéniablement la ligne d'horizon. En fait, depuis les ruralités, on peut réapprendre une forme de responsabilité, d'humilité et de dignité. et que parce qu'on est au plus près des effets environnementaux de nos propres gestes quotidiens, parce que l'on voit la nature altérée ou la nécessité de la reproduire, donc d'être un peu attentif et en soin vis-à-vis de cette chose-là. Et c'est en ça que, pour moi, les ruralités sont, en fait, ça peut paraître grandiloquent, mais vraiment, je pèse mes mots, c'est l'avenir de l'humanité, en fait. Il va falloir renouer avec ces cultures-là pour abaisser le taux de charge écologique, apprendre à vivre très, très différemment, ne plus être en état d'ébriété, dans un élixir de jouvence et en surplomb, hors sol, comme dans les métropoles, et pour tout simplement refaire décence vis-à-vis du vivant.
Guillaume Faburel, merci à vous.
Merci à vous.